voudrais vous raconter l'histoire de l'allégresse, ou plutôt l'histoire d'une femme. Une femme qui cherche le geste parfait, le parfait staccato au violon, mais son bras n'y est pas. Pas assez tendu, pas assez nerveux, pas assez d'attaque. On n'entend pas encore la rafale de mitraillette, le tac 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 tac. Ou alors pas assez relâché, elle ne sait pas, mais elle n'y est pas. Et ce jour-là, nous sommes en 1998 en pleine Coupe du Monde de foot. Et pendant qu'elle s'entraîne, l'équipe de France est en train de jouer et sa télé est allumée. Et c'est alors que tout change parce qu'une passe, une belle passe vient d'être faite à Thierry Henry. Voilà Thierry Henry qui accélère, Thierry le passement de jambe, Thierry Henry qui accélère et laisse tout le monde derrière lui. Et il y a une telle accélération, une telle poussée de vie, un tel élan et une telle nervosité que ça y est, elle le trouve son geste, son staccato parfait. Il aura suffi qu'elle se plugue sur l'énergie de Thierry Henry, sur la belle vie de Titi pour atteindre la beauté et que la musique soit. La voilà, son instrument en main, collé à sa joue, traversée par une belle allégresse. Ça y est, elle est dedans, dans la musique, dans la vibration, dans l'énergie, dans la vie même. Elle, ce qu'elle aime dans cette vie, c'est décloisonner. Les grands concerts de musique classique et les matchs de foot sont invités à la même fête. Le léger et le profond également, comme la tristesse et la joie. Vous étiez opposés, eh bien dansez maintenant. Vous étiez bien rangés dans des cases, dans des catégories, bien au chaud dans vos petites frontières. Eh bien voyagez maintenant. Nietzsche définit l'allégresse, en allemand dit Heiterkeit, comme une belle humeur. C'est cela qu'elle cherche quand elle joue du violon, écoute à la radio les impros d'Edouard Baird ou les matchs de foot commentés par des génies de la présence. La belle humeur. Cette belle humeur qui n'est pas négation du tragique, mais bien une manière de le regarder en face. De l'inviter à danser dans un souverain sourire et pourquoi pas dans un grand éclat de rire. Quand tout un pays est suspendu à l'accélération fulgurante de Thierry Henry, quand le violon se fait voix plus qu'humaine pour faire vibrer le monde et tous nos cœurs à l'unisson, il reste peut-être du tragique, mais il se fait tout petit, il ne la ramène pas trop, comme un ingrédient parmi d'autres d'une ivresse supérieure qui se nomme allégresse. Pour en parler ce matin de cette belle humeur qu'est l'allégresse et des pouvoirs de la musique, j'ai la joie de recevoir la grande violoniste et supportrice de l'OM, Marina Chiche, qui nous a rejoint ce matin sous le soleil de Platon pour nous aider à répondre à cette belle question. Comment trouver, comment cultiver, comment partager l'allégresse?
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Marina Chiche.
Bonjour Charles Pépin.
Merci d'être avec nous, avec votre violon. Je ne le savais pas, je vous vois arriver avec l'instrument en main, c'est une bonne surprise. Alors Thierry Henry, important pour une violoniste?
Oui, très très important pour moi, élément déclencheur et stimulation en fait, ouais. Inspiration, grande inspiration du geste virtuose par excellence et d'une espèce de contagion.
C'est ça, oui.
D'une accélération illimitée qui du coup m'amène vers à dépasser mes propres limites.
Alors je voulais commencer par ça. D'abord pour le clin d'œil, parce que c'est pas tous les jours qu'on a une plus grande des violonistes du monde qui est en même temps supportrice de foot, évidemment, mais aussi parce que rien que ça, ça permet de casser une certaine idée de la technicité. Tout le monde connaît, pour devenir violoniste, c'est 10-12 heures par jour d'entraînement, vous avez commencé à 3 ans, donc c'est très technique, c'est très sérieux, mais en même temps, ça n'est quand même pas que ça, il y a aussi l'ouverture à autre, à l'énergie du monde, à l'énergie, en l'occurrence, d'un match de foot. Et comment on fait la part des choses entre ce qui vient de soi, en fait, de sa maîtrise, et ce qu'on ne fait qu'accueillir d'autres choses que soi, qui peut s'appeler le monde ou Thierry Henry?
Oui, il y a évidemment ce cadre, cette rigidité de l'exigence infinie associée à l'apprentissage d'un instrument de musique classique et puis des codes, quelque chose de très normatif. Et en même temps, c'est tout ce qui va se passer entre les notes, qui va se passer au-delà de nous-mêmes, qui va être intéressant en fait et qui va faire jaillir au-delà d'une technique une dimension artistique.
C'est ce qu'on appelle l'interprétation ou on n'est pas encore dans l'interprétation là?
Si, je pense que ça nous met tout de suite dans la vibration d'interprétation. Il y a un livre de Marc-Alain Wachnin que j'aime beaucoup qui s'appelle Lire aux éclats. Et donc il y a cette idée de rire aux éclats aussi et cette brisure en fait cette fracture qu'amène le rire dans quelque chose qui peut se prendre au sérieux. C'est par là que ça amène aussi toute la dimension de fêlure. Donc on est vraiment aux antipodes de cette chose cadrée, normée, parfaite. On vient faire un court-circuit, prendre de court cette perfection qui pourrait complètement enfermer.
C'est beau cette idée de court-circuit. Ça veut dire aussi qu'on rencontre un courant finalement pas exactement là où il était prévu.
Ben oui, et c'est là où je reviens à Thierry Henry aussi, parce qu'il court et il nous prend de court. Et donc il y a le geste qui est prévu, et puis il y a l'imprévu qu'on accueille. Et souvent, je me suis rendu compte que c'est là que les choses se passent, que c'est là que l'artiste se révèle, que c'est là qu'il se passe quelque chose avec le public, et c'est tout l'intérêt en fait. Donc c'est vraiment une injonction contradictoire, c'est-à-dire qu'on est formé, formaté à la technique, à la perfection, et en fait la seule chose qu'il va falloir, c'est inviter l'imprévu.
Vous avez évoqué Marc-Alain Wachnin, je précise pour nos auditeurs, Marc-Alain Wachnin est rabbin, oui. Il donne des conférences géniales le lundi soir dans lesquelles il improvise beaucoup, il anime une sublime émission sur France Culture le dimanche matin, et justement, quand Marc-Alain Wachnin parle d'interprétation, il y a d'abord un amour du texte, une connaissance assez savante, et puis à un moment, on se libère pour interpréter. Mais le problème, et c'est peut-être pareil pour vous, musicienne, d'ailleurs on va vous écouter, on a prévu d'écouter un morceau dans lequel vous interprétez justement, c'est comment juger d'une bonne interprétation. Parce que si on n'interprète pas assez, au fond on est dans la servilité, la docilité à l'égard du grand, on n'est pas bon quoi. Mais si on interprète trop, on n'est pas bon non plus. Comment on trouve le bon dosage?
Alors ça c'est la quête de toute une vie. Mais justement, d'ailleurs, c'est le chemin d'interprétation qui est intéressant. C'est pas d'enfermer une interprétation comme si elle était unique. Et c'est la singularité de l'interprétation incarnée à un moment donné qui invite aussi à la pluralité des interprétations. Il n'y a pas une interprétation vraie, il y en a plusieurs, mais dans un respect, dans un chemin de lecture, de se rapprocher toujours de l'intention du compositeur, de la partition elle-même. Et il y a une notion aussi que Wachnin développe, que j'adore, qui est le chidouche, donc qui veut dire le chadash, c'est nouveau en hébreu, et chidouche qui veut dire remettre du nouveau, remettre du mouvement. On sort de la prison d'une interprétation enfermée.
Oui, et en même temps, on peut pas non plus aller partout dans une liberté totale.
Surtout pas.
Le philosophe Ricoeur parle très bien de ça en disant que l'herméneutique, c'est d'être fidèle à la logique du sens. C'est pas fidèle au texte, mais c'est fidèle à la logique du sens. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un jeu sous contrainte, et c'est dans cette contrainte qu'on trouve cette liberté.
Alors ça me fait penser à une phrase un peu sibylline que me disait un de mes grands professeurs, un vieux professeur hongrois comme ça, un mentor, qui me disait, parce que là on est un peu sur cette métaphore, cet imaginaire religieux, il me disait en anglais, mais en somme il me disait « ne soyez pas religieuse, mais cherchez Dieu ». Et ça, pour un interprète, je pense que c'est très fort, parce que l'idée c'est donc ne soyez pas dogmatique, ne soyez pas dans cette fidélité bien-pensante à tout prix, mais cherchez Dieu, chercher le message, chercher la divinité dans le texte.
Est-ce que si je traduis comme ça, ça vous va? Ne soyez pas religieuse, soyez mystique.
Pourquoi pas? Parce qu'évidemment, là, on a de l'inspiration, on a du mystère, donc on n'a pas une réduction du sens. Au contraire, on a une invitation à un sens infini. Et c'est ça aussi qui fait la profondeur, le côté infini de cette quête et de ce que la musique classique, ou une musique en tout cas pensée, élaborée, a à nous apporter. Puisqu'à chaque fois qu'on va la visiter, le contact avec le chef-d'œuvre va nous amener une nouvelle lecture de l'œuvre, du monde et de nous-mêmes.
Et peut-être plus de questions que de réponses. Le mystique n'aime jamais rien que chercher quand le religieux croit avoir trouvé. C'est peut-être tout le problème d'ailleurs, de la violence des religieux. Ils croient avoir trouvé.
Bien sûr, eh ben, quand on parlait aussi de décloisonner ou d'introduire du rire, c'est que justement le rire vient abattre cette rigidité du sérieux, se prendre au sérieux. Donc on prend au sérieux le message, mais on ne se prend pas au sérieux et on ne fait que questionner. Effectivement, oui, moi je suis une fan de la question.
Ouais. Alors j'aimerais avec vous revenir sur un travail de psychologie que vous connaissez, c'est le travail sur les 10 000 heures.
Oui.
Donc c'est une étude très célèbre, et se trouve, donc tout le monde connaît à peu près l'étude, c'est Gladwell qui dit, enfin il reprend l'étude d'un psychologue, et il dit voilà, si vous voulez être très bon dans votre domaine, pouvoir vous lâcher, être dans le flow, dans la fluidité, voire improviser, vous avez besoin de 10 000 heures de pratique. Mais ça a été mal compris, que tout le monde se dit, voilà c'est un truc de bourrin, il suffit de faire 10 000 heures et je serai très bon. Et en fait, c'est pas exactement ça. C'est d'abord 10 000 heures en présence, en conscience, et 10 000 heures en aimant ça. Mais quand même, quand on a commencé le violon à 3 ans, on imagine que vous avez eu vos 10 000 heures à l'âge de 10 ans, vous les aviez déjà. et quand même, vous avez beaucoup parlé d'accueillir l'imprévu, mais il y a quand même d'abord beaucoup de travail. Alors quel regard vous portez sur cette théorie des 10 000 heures? Est-ce qu'on peut s'y accrocher si on a 40 ans, 30 ans, et qu'on se dit, voilà, je vais commencer le tango, je vais commencer le tennis. Finalement, si je bosse 5-6 heures par jour, j'aurai 10 000 heures dans pas très longtemps, dans 5-6 ans.
Alors, elle me fait sourire, cette théorie, et en même temps, elle détient une certaine vérité. On ne peut sans doute pas faire l'économie d'un certain investissement temporel et de ce que vous avez dit, d'être un peu bourrin. Moi, j'aimerais penser, je me la pose beaucoup, cette question, d'un point de vue plus des fois d'enseignante, puisque j'ai été professeur en Allemagne dans une autre vie, et je me suis posé cette question. Peut-on faire l'économie de cette exigence? Peut faire l'économie d'une forme de répétition? Et là, je pense qu'on touche à quelque chose de l'ordre des neurosciences et de l'intégration. En fait, d'avoir tellement intégré le geste ou la compréhension qu'on passe à un niveau... Vous savez, ces stades, on dit... comment c'est déjà inconscient, incompétent, conscient, incompétent, conscient, compétent, et après... inconscient, compétent. C'est-à-dire que même avec une forme d'inconscience, on a tellement intégré...
Ça s'appelle la grâce, ça. Inconscient et compétent, c'est pas mal.
C'est le dire comme ça. Enfin, c'est toutes ces phases d'apprentissage. Moi, les 10 000 heures, elles m'intéressent évidemment dans les autres apprentissages que le violon, mais en fait, je me suis rendu compte que j'ai intégré une forme de méthodologie par rapport à mon apprentissage du violon qui a déteint sur tout le reste. Donc, quand j'ai appris des langues quand j'étais enfant,
Vous parlez 5 langues.
Oui, enfin, j'ai étudié plein de langues. Après, il y en a certaines qui sont rouillées, mais c'est vrai qu'en tout cas, j'ai installé des chemins dans mon cerveau, en tout cas. Et donc, il y a cette idée qu'il y a une forme de répétition qui est imbattable. Si vous faites 10 000 heures de vocabulaire à un moment,
D'ailleurs, vous avez appris le violon par une méthode dont j'ai oublié le nom, mais c'est une méthode d'apprentissage par mimétisme.
Alors oui, j'ai commencé avec la méthode Suzuki. Méthode Suzuki, donc d'un monsieur japonais, comme son nom l'indique, qui avait cette idée qu'on apprenait par mimétisme et par l'oreille seulement. Donc sans lire, sans être dans cette relation intellectuelle, visuelle, analytique, mais vraiment par l'oreille et par le geste. Donc j'en ai fait qu'un an et je suis rentrée au conservatoire après. C'est une méthode qui peut être exceptionnelle. Après, elle a ses limites, évidemment, parce que quand on veut justement être en contact soi-même avec la partition, il faut assez rapidement intégrer cette donnée, justement.
Alors justement, vous avez été premier prix au conservatoire en violon à l'âge de 16 ans, et puis vous avez eu beaucoup de titres de gloire, de belles réussites, et vous avez commencé par apprendre par mimétisme, et là vous parlez de la répétition. D'où une question un peu philosophique, je mets ma casquette de prof, j'enlèverai bientôt. Si je commence par répéter, comment je finis par devenir moi-même? Si je commence par apprendre par mimétisme, comment cette répétition, cette copie, peut-elle faire éclore ma singularité? Et je fais une petite parenthèse d'histoire des idées. C'est un débat qui a beaucoup animé Platon et Aristote. Platon était contre l'opposition, contre la mimésis, et Aristote a objecté à Platon, qui fut son maître, qu'en fait on apprend par mimésis, que c'est comme ça que la culture se développe. Mais simplement, Aristote disait... Ne vous inquiétez pas, parce que vous n'arriverez jamais à imiter complètement, et c'est là que vous deviendrez vous-même.
Non, moi, j'aime beaucoup cette deuxième version. J'ai d'ailleurs eu un professeur avec lequel j'ai eu de grands affrontements quand je suis rentrée au Conservatoire supérieur de Paris, et j'avais justement 16 ans. Et j'étais complètement fan d'un immense violoniste, le grand violoniste du XXe siècle, Yashar Heifetz, qui est mon Zizou, mon Thierry Henry, ce que vous voulez. Enfin, donc, il y a d'ailleurs aussi lui beaucoup ces pics d'accélération qui me fascinaient à cette époque. Et en fait, je l'imitais. Dire ça, c'est déjà prétentieux, parce qu'en fait, il faut pouvoir l'imiter. Mais dans cette tension, dans ce chemin vers l'imitation, j'ai appris tellement de choses. Et comme vous l'avez dit, on ne peut pas imiter. Il y a quelque chose qui nous échappe. Et c'est ça qui est intéressant. Et sans doute, c'est la même chose qu'avec le rire. C'est cette chose qui nous échappe.
Me vient d'ailleurs l'analogie avec des grands imitateurs comme Laurent Gérard.
Oui.
Bah, Laurent Gérard, il imite hyper bien. Mais en fait, on le reconnaît. Ça veut dire qu'en fait, il imite pas si bien que ça. Et tant mieux, parce que c'est comme ça qu'on devient soi-même. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que Freud disait dans un autre champ, en disant que l'enfant grandit par identification successive. Donc en gros, il imite d'abord sa mère inconsciemment, puis son père, puis son frère, puis sa marraine, et qui vous voulez. Mais en fait, il échoue toujours dans ses identifications successives, parce qu'il est lui-même. Et c'est ainsi qu'il en prend la conscience et la mesure.
Oui, et je pense que justement, on se révèle dans ce chemin d'imitation. Alors, bien sûr, il y a des limites à ça. Donc après, j'avais une cure, je m'étais sevrée complètement. J'écoutais plus du tout ce grand violoniste que j'ai redécouvert avec un plaisir immense. Et là, j'ai vraiment perçu à quel point, en fait, je n'entendais pas le quart des choses. Parce qu'il y a aussi ces biais cognitifs. On n'entend pas tout. On ne perçoit que ce qu'on veut percevoir aussi dans ce modèle. Alors, peut-être, chose importante, autant bien choisir ses modèles.
Oui, c'est vrai. Et puis, il y a aussi la question de l'admiration. C'est-à-dire qu'on peut imiter dans une servilité froide et éteinte, ou alors imiter en admirant beaucoup. Par exemple, je sais que vous admirez Ginette Neveu. Oui. Si vous l'imitez, comme ce que vous admirez chez elle, on admire toujours la singularité. Et au fond, la singularité, c'est inimitable. Et quelque part, on le sait. C'est-à-dire qu'on imite quelqu'un en sachant qu'on ne pourra pas l'imiter. Mais c'est parce qu'on l'admire.
Oui, et puis cette admiration, elle permet de devenir ce qu'on n'est pas encore. C'est-à-dire que je percevais chez Heifetz, ou même chez Ginette Neveu, ou chez d'autres grands violonistes, je perçois une liberté, une audace, un culot parfois même, et aussi une liberté interprétative. Et si je le faisais, en tout cas à l'époque, si je le faisais en tant que Marina, j'avais pas le droit de le faire. En plus, on me l'interdisait dans ce côté, dans ce cadre normatif, des fois, qui était la classe de violon, le conservatoire qui conserve certaines traditions. Et donc, dès que ça débordait, c'est pour ça que pour moi, c'est très lié avec le rire, ce rire que j'arrive pas à canaliser. Et ben, c'est un peu la même chose. C'est cette espèce de folie. Que les autres se sont autorisés. Du coup, on dit, je le fais comme si j'étais... c'est Play It Like Beckham, il y a ce film, joue-la à la Beckham, joue-la à la Yasha, Heifetz, joue-la à la Ginette, et d'un coup, je m'autorise à devenir la grande violoniste que finalement, on ne m'autorise pas à être.
Et bien, cette grande violoniste, on va maintenant l'écouter, Marina Shish. Thank you. C'était Fritz Kreisler, trois valses viennoises, et celle-là, c'était Liebeslied, autrement dit chagrin d'amour.
Sous le soleil de Platon.
Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Je n'ai pas assez pris en peur, je n'ai pas assez orgueilleux, de l'orgueil pourtant. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.
Charles Pépin.
On 17, hop.
Sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Marina Schiff, sous le soleil de Platon. Marina Schiff, grande violoniste, supportrice de l'OM évidemment, qui anime tout l'été une émission sur France Musique sur les femmes musiciennes et qui pleurait de rire en écoutant quelqu'un qui finalement lui rappelle son professeur de violon, à savoir Louis de Funès.
Si seulement.
Alors, on a écouté cette très belle valse. Moment parfait pour comprendre que la pensée dichotomique qui sépare la joie et la tristesse n'est pas la bonne pensée, nous fait rater la vérité de l'existence. Et en fait, depuis qu'on discute, depuis le début de l'émission, il y a eu beaucoup de références à Nietzsche implicites que je voudrais expliciter. D'abord, vous avez dit qu'il y avait... D'abord, le concept même d'allégresse qui donne le titre à cette émission vient de Nietzsche. Alors, vous parlez allemand, Marina Schisch, donc dit « Heiterkeit », c'est la belle humeur. Ça veut dire que même s'il y a des choses tristes, même s'il y a du tragique, on va pas se laisser abattre, on va quelque part avoir une sorte de sourire créatif, souverain, on va être capable de danser même s'il y a des ruines. Est-ce que ça vous parle, vous qui quand même maniez un instrument qui, par exemple, notamment dans l'histoire du peuple juif, dit la douleur, dit l'exil, dit la voix humaine, dit les larmes, mais dit aussi la joie qui persévère.
Oui, ben alors justement dans cette pièce de Kreisler, le Liebeslied, il y a cette ambivalence. On valse quand même, donc c'est un chagrin d'amour, et puis il y a des parties en majeur, donc cette ouverture comme ça de la tonalité qui met du soleil dans la musique. On ne sait pas si en fait on rit ou on pleure, on se souvient de quelque chose d'heureux, du coup c'est joyeux, mais en fait ben non, parce que chagrin d'amour. Donc il y a cette ambivalence, cette ambiguïté. Les choses ne sont pas binaires évidemment. Donc dans ce sens-là, la musique peut transporter cet au-delà de ces catégories. Après, ben, vous évoquez Nietzsche, alors forcément, je pense que ça rejoint aussi ce dont on parlait tout à l'heure dans cette formation que j'ai pu avoir très classique, où on est dans cette quête apollinienne, mais on a besoin du dionysiaque, on a besoin
J'explicite un peu pour les auditeurs, ouais. En fait, le dionysiaque, c'est la puissance arythmique, brutale,
chaos,
noir, sombre, horrible, monstrueuse, mais avec un battement arythmique, comme la vérité originelle du monde d'après Nietzsche. C'est le premier livre de Nietzsche, hein, La naissance de la tragédie. Et puis, d'après lui, dans la nature, il y a deux forces. Il y a cette force-là, Dionysos, il y a une force apollinienne, c'est la mesure, la proportion, la mélodie, la beauté. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la beauté, c'est les deux. C'est-à-dire, c'est l'expression apollinienne du dionysiaque. C'est pas que le dionysiaque, ni que l'apollinien. Et en fait, c'est ce qu'on a entendu là.
Oui, et alors ce qui me vient tout de suite dès qu'on dit apollinien par rapport à la musique, alors on pense par exemple pour le violon au concerto de Beethoven, qui est cette espèce de chose de pureté, d'idéal, d'harmonie, de proportion, mais là-dedans, vous avez des percées du dionysiaque incroyables. Et donc un interprète qui jouerait le concerto de Beethoven que de manière dionysiaque ou que de manière apollinienne, passe à côté,
par exemple.
Enfin, passe à côté, hein. Évidemment, on n'est pas là pour faire la tribune des critiques, mais en tout cas, passe à côté d'une dimension du message qui, d'un coup, nous parle de conditions humaines.
Exactement, il faut les deux. Et autre référence à Nietzsche, dans votre propos, juste avant de vous écouter, c'est quand vous disiez, voilà, en fait, j'ai passé pendant des heures, des années presque, à imiter les grands, et puis un jour, je me suis autorisé à être moi-même. Et en fait, c'est la notion d'exemplarité qui est chez Nietzsche. Mais sauf qu'on la comprend mal, cette notion. Quand on parle d'exemplarité, on croit que c'est « je vais copier l'exemple parfait ». Mais Nietzsche voulait dire le contraire. Pour lui, un grand exemple, il est inimitable, et c'est pourquoi il m'inspire. C'est peut-être ce qui vous est arrivé quand vous avez imité. En fait, ces grands, de toute façon, vous ne pouviez pas être ces grands. Il vous a donc fallu devenir vous-même.
Absolument, c'est ce qu'on appelle les supports d'identification dont on a tant besoin. Et finalement, là, vous me faites un petit pont, une petite passe, un centre vers l'émission que j'ai sur France Musique avec ces grandes femmes du passé, ces grandes interprètes. Parce que finalement, je me suis rendu compte que dans mes supports d'identification, ben, j'avais voulu être un homme toute mon adolescence. J'avais voulu être Yasha Heifetz, j'avais voulu être Yehudi Menuhin.
Votre frère aussi, non?
Et absolument. Mmh. Mais ça, il faudrait pas qu'il l'entende. C'est pas grave, on est à la radio.
C'est trop tard,
donc...
on est en direct.
Non, j'ai toujours pensé quelque part que qu'il était plus simple d'être un homme brillant, toutes ces choses-là. Et finalement, il m'a fallu beaucoup de recul et aussi de rencontres avec une thématique plus féministe pour comprendre en fait ce que j'avais intuitivement perçu. Mais pour revenir à ces supports d'identification hommes féminins, c'est là où j'ai rencontré donc Ginette Neveu, ouais, dans mon adolescence. Mais j'avais pas conscientisé que c'était la seule femme dans mon panthéon à ce moment-là.
Incroyable.
Et donc tout le travail que je fais actuellement, c'est évidemment de remettre en lumière des femmes exceptionnelles pour que le panthéon s'élargisse et qu'on ait des supports d'identification au masculin et au féminin.
On s'est rendu compte il y a deux jours, au moment du palmarès du Festival de Cannes, oui, qu'on n'avait même pas tilté, qu'il n'y avait pas eu de femme qui avait eu la Palme d'Or depuis 1993. Oui. C'est quand même hallucinant. Alors, quelles sont les femmes que vous mettez en avant dans votre émission France Musique cet été? C'est alors, une émission qui est quel jour d'ailleurs?
Alors, c'est le dimanche de 16h à 17h30. Cette année, donc, pendant deux étés précédents, j'étais autour de grandes femmes violonistes. Donc, Ginette Neveu, la violoniste française, oui, que tout le monde connaît. Pour les mauvaises raisons, parce que c'est pour son décès tragique dans un accident d'avion dans lequel était Marcel Cerdan.
Ouais. Mais c'est pas elle, peut-être que je me trompe, c'est pas elle aussi qui a pris, pour pouvoir avoir du succès, un nom d'homme, ou je confonds?
Non, alors ça, c'est pas elle. Alors elle a eu pas mal de, entre guillemets, tous les critiques disaient qu'elle avait un jeu viril, parce ouais, qu'elle dégageait cette puissance. Mais non, il y a beaucoup de compositrices qui ont pris des noms d'hommes, parce qu'en
comme
fait...
Comme Georges Sand en littérature d'ailleurs.
Exactement. C'est vieux comme le monde en fait, hein, cette espèce de stratagème. Mais en fait, donc Ginette Neveu, cette grande violoniste française qui pourtant n'est pas dans nos mémoires, alors que c'est vraiment dans notre patrimoine, elle devrait être aussi célèbre qu'Édith Piaf. Tout le monde devrait connaître Ginette Neveu. Ce serait inspirant pour tout le monde. Et puis l'été dernier, donc les grandes violonistes. Cet été, je suis partie donc sur les traces de grandes violoncellistes, pianistes, clavecinistes, voilà, de guitaristes. Il y en a vraiment pour tout le monde.
Merci pour ce bel exercice d'admiration. Donc, on renvoie tout le monde à France Musique. Et quelque chose que je trouve aussi très intéressant dans votre approche et très admirable d'ailleurs, c'est cette valorisation de l'improvisation. Alors, c'est très intéressant parce que souvent, dans la musique classique, c'est pas comme dans le jazz. L'improvisation est parfois un peu regardée avec soupçon. Ouais. On a d'ailleurs dans la langue française, dans le sens courant, quand on dit on improvise, ça veut dire qu'on n'est pas sérieux. Il y a une réduction de l'improvisation à l'amateurisme dans plein d'univers. Par exemple, si vous avez un patron très très sérieux d'entreprise, vous dites j'improvise, il va pas être content. Et pourtant, il a tort parce que la vraie vie, c'est d'improviser. En fait, on peut pas faire que répéter des schèmes, des schémas, des process. La vraie vie, c'est d'improviser. Mais alors, quelle place à l'improvisation? Par exemple, dans l'interprétation qu'on a entendue tout à l'heure, est-ce qu'on peut toujours improviser?
Vaste question. Surtout pour une violoniste classique, vous avez bien cerné la problématique. Moi, je suis à un moment de ma vie où j'invite de plus en plus d'improvisation. En fait, la salvation, le salut viendra par l'improvisation. Ça rejoint le ridouche. Tout à l'heure, c'est cette invitation à du nouveau. C'est une remise en mouvement. Tout ce qui va être figé est mortifère au bout d'un moment. Donc ces heures de répétition, cette technique en béton, comme on dit, hein, on dit ça, hein, quelqu'un qui a une technique d'acier en béton, c'est la fin de l'organicité, c'est la fin de la mobilité, de la vitalité. Et donc c'est l'improvisation, c'est justement inviter la vie et retrouver l'envie, comme on dit aussi...
Alors, ça c'est très beau, l'improvisation, c'est retrouver la vie et accueillir l'envie.
On se réveille dans des états très différents le matin. Après, il va falloir lutter contre ça. Il y a des matins où on se lève, où tout vous semble hostile. La fraternité ou l'indifférence, les bruits, le silence, les autres ou leur absence, les gens qui passent, qui ont l'air d'ennemis probables, le mur qui nous renvoie à notre enfermement, cette prison carrée qu'on s'est construit nous-mêmes. Il y a des matins comme ça où on a envie que notre cri reste caché au fond de nous. On ne veut personne pour l'entendre. On ne veut pas apprendre, on ne veut pas comprendre, on ne veut pas savoir. On veut avoir raison contre tous, raison de souffrir. Notre bien le plus précieux, c'est notre malheur de ce matin-là. Personne ne nous l'enlèvera. personne ne nous retirera.
En voilà un, je crois, Marina Chiche, qui les a, ces 10 000 heures de pratique. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre cet improvisateur-là? Et est-ce que ça fait écho à la vôtre, à votre manière d'improviser?
Ah, je suis totalement fan d'Edouard Baird, ça c'est, c'est irrépressible.
Vous allez essayer de faire pareil sur France Musique? Vous voulez devenir le Edouard Baird de la musique classique?
J'ai pas osé, pas encore. Mais je trouve ça vraiment brillantissime. Et justement, cette brillance qui est tout sauf... Enfin, évidemment, on sait bien, on n'est pas dupe que derrière...
Il y a des tiroirs. Mais il n'y a pas que ça.
Exactement. Il n'y a pas que ça. Il y a l'invitation. Moi, ce que j'appelle l'accueil de l'imprévu. D'un coup, cette brèche... On a toujours cette image un peu romantique, vous savez, de l'auteur avec sa muse qui vient lui dicter dans l'oreille. Donc c'est très beau, propre sur soi, lissé, etc. Ouais. Mais c'est souvent des moments de folie. En fait, on doit flirter avec une forme de folie.
Et il y a un risque aussi. Il y a un risque de se planter, en fait.
Il y a un risque total, mais ne pas prendre ce risque, c'est le risque ultime.
Ouais, mais c'est surtout que c'est parce qu'on ne veut pas prendre ce risque aussi qu'on peut se planter d'ailleurs. C'est-à-dire en fait être sans vie, sans intérêt éterne.
Oui, et alors même d'un point de vue très technique, moi j'aime beaucoup. C'est pareil dans un match de foot ou dans un concert. Vous savez le match de foot quand d'un coup les équipes sont un peu crispées et bam elle prend le premier but sur un coup franc ou sur un truc un peu débile, un corner. Et d'un coup le jeu se libère parce qu'on arrête de jouer défensif. D'un coup faut y aller.
Et troisième but. Avec ce troisième but marqué par la révélation de la Coupe du Monde, Emmanuel Petit, 3-0, on les a assommés, on les a renversés.
Alors, en fait, l'idée, en écoutant Eugène Saccavino, c'était plutôt d'avoir un autre improvisateur que Edouard Baird. Là, c'est un triomphe de joie, mais ça fait juste du bien.
Ah, oui.
Mais quand même, c'est intéressant d'être plugué sur ses énergies. C'est-à-dire qu'en fait, quand on entend Edouard Baird, quand on entend un commentateur de foot à la radio, c'est incroyable, la dextérité. Et en fait, cette dextérité est le terrain d'un abandon, finalement, une sorte de lâcher prise, d'accueil de ce qui n'est pas soi. Et donc, quand on le met en parallèle, quand on fait une analogie avec les grands musiciens comme vous, ça m'amène à une question philosophique que je trouve très belle, qui est quand même quel est le rapport entre la répétition et la sortie de la répétition, ou pour le dire autrement, quel est le rapport entre la maîtrise et l'immaîtrise, ou encore pour le dire autrement, en fait juste qu'est-ce qui se passe, quoi, comment qu'est-ce qui se passe, est-ce que je touche un truc en moi ou est-ce que je touche un truc hors de moi?
Ah, excellent. Oui, cette question d'être hors de soi. On pose souvent la question, mais à quoi vous pensez quand vous êtes sur scène, ou qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, il y a plein de réalités, il y a plein de manières de vivre, même cet au-delà de soi. Des fois, c'est dans une présence absolue que d'un coup, on va être dans ce flow, on va toucher, avoir accès à quelque chose, l'espace d'un instant. Mais des fois, justement, c'est dans un abandon total, on sort de son corps, on ne sait pas trop où on est submergé, on est emporté par une vague. Ce qui peut être très dangereux, bien sûr. Donc, c'est toujours d'alterner ces moments d'abandon d'hors de soi et de revenir, d'avoir cette petite lumière rouge qui nous rappelle que il faut quand même tenir le match, ou alors voilà.
Et puis il y a aussi la question des autres, parce que si vous êtes simplement avec votre partition dans le rapport à votre technicité, le rapport aux autres n'est pas très fort. Ils peuvent être éblouis par une technicité. Ils peuvent être bluffés par ce spectacle. Mais si vous improvisez et qu'ils sentent que vous prenez ce risque devant eux, au fond, vous les convoquez dans votre émotion de manière plus forte, non?
Je pense que dans tous les cas, on est en contact avec les autres. Il y a cette exhibition qui a lieu de toute façon. Alors, on peut être dans l'au-delà, dans l'hors de soi, en étant au maximum de son intériorité, complètement plongé. Moi, c'est vrai que ça m'arrive souvent de fermer les yeux, d'être complètement à l'intérieur de moi, en dialogue, dans cette conversation peut-être intérieure. Mais on peut aussi se perdre dans cette hyper-communication, cette hyper-extériorité. Et ça aussi, c'est un calibrage extrêmement fragile, extrêmement qui nous échappe.
Oui, il y a deux manières finalement, dans ce que vous dites, de rencontrer les autres, de rencontrer le public. On va écouter maintenant les Maisons du Sud.
Les Maisons du Sud, la signature. encore. Chacun la sienne, après la sienne. Les maisons du sud, pas pour gonflard. Les rachis de plastique, capitaine en slip, parrain abordage. Tout est là, et là, et là, y'a rien à faire. Et nos joies, nos joies, nos joies, et nos misères. Tout est là, et là, et là, y'a rien à faire. Et nos joies, nos joies, nos joies, et nos misères. Les maisons du sud, couleur de glace. Sur les doigts, la vente de pistaches. Les maisons du sud, à faire du feu. Les boys font les durs, au papier journal, par la flamme.
C'était Felicita, les maisons du sud.
Sous le soleil de Platon.
Il n'y aura pas de violoniste dans cette tour. C'est une tour interdite aux musiciens. C'est une tour sans gamme et sans arpège. On veut pas devenir dingue avec ton archet qui va grincer 4 heures par jour sur 30 étages. Ça me scie les nerfs, moi, le violon. Je suis allergique.
Charles Pépin. Sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Marie Nachich sous le soleil de Platon et je vous ai proposé cette chanson du Sud parce que vous venez de Marseille et c'est l'occasion pour moi de revenir sur votre parcours. Un parcours où justement il y a eu des prises de risque. On évoquait tout à l'heure la prise de risque au moment d'improviser, mais il y en a eu de votre chemin au moment de faire des choix. Notamment à un moment, vous commenciez à avoir le buzz, on va dire, le succès, nomination à Victoire de la Musique, une notoriété qui commence. Vous auriez pu vous installer dans ce succès, en France, une figure comme ça de la musique classique. Et puis, sur un coup de tête, vous partez pour Taïwan. Et puis, plus tard aussi, vous partez enseigner en Allemagne. Comme si il fallait être là où on ne vous attend pas.
Eh oui, prendre la tangente, ça c'est Edouard Baird qui le dit. On se lève, on prend la tangente. Ça, c'est vrai que c'est un peu un...
Mais vous avez eu peur de quoi? Peur d'être dans cette case de la soliste, la grande violoniste?
Sans doute, il y a quelque chose qui ressemblait à de l'enfermement, même si j'en avais pas du tout conscience. J'arrivais pas à mettre des mots dessus à l'époque, mais il y a quelque chose qui est... Il y a un appel d'ailleurs, donc on choisit pour ou contre quelque chose. Pour, c'était cet ailleurs, cet exotisme, j'adorais, je fantasmais l'Asie. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même quelque chose de l'ordre de la fuite.
Parce que quand même, je précise pour les auditeurs, vous partez vraiment avec une valise et votre violon à Taïwan, personne ne vous attend. Moi au début je me disais, il y a une histoire d'amour, un truc comme ça, en fait je crois pas.
Non.
Et alors que vous commenciez à avoir un succès, à être attendu un peu partout, voilà, Victoire de la Musique, émission, notoriété, mais qu'est-ce que vous êtes allé chercher comme ça là-bas?
Moi-même, sans doute. Il y a cette fuite et puis il y a cette quête de justement qui suis-je. Là-bas, j'ai compris beaucoup de choses aussi sur des questions d'identité, de racines. Quand on est en Asie, j'ai vécu ce que c'est d'être l'autre. La seule jeune femme blonde dans un environnement, j'étais plus jeune, la seule prof si jeune, enfin toutes ces choses-là, je ne parlais pas encore du tout de mandarin, enfin j'étais vraiment dans une expérience de l'altérité totale, et ça a été extrêmement formateur. J'ai compris les racines aussi européennes de cette musique classique. Quand j'étais en Allemagne, j'ai ressenti aussi quelque chose de l'identité française.
Il fallait être loin de la France pour se sentir enfin française.
Quelque part. Oui, quelque chose de cet ordre-là. Et puis aussi une envie de ne pas me laisser enfermer. J'avais déjà eu des concerts à l'étranger où je m'étais sentie très très libre aussi dans ma manière d'interagir avec d'autres musiciens, du discours que je pouvais porter. J'étais plus enfermée dans un personnage peut-être trop joyeux, trop superficiel. Là, d'un coup, je pouvais aller dans ma profondeur sans me justifier.
Et d'ailleurs, dans cette quête de profondeur, il y a aussi... un intérêt pour l'esthétique, au sens de la théorie du beau, au sens d'une science très savante, en fait, et pas simplement d'une pratique. Et ben justement, moi, ça m'intéresse beaucoup, l'esthétique, et précisément toutes les questions que ça pose, le beau, le sublime, etc. Et donc, je vous ai préparé un petit quiz uniquement d'esthétique.
Au secours.
Non, il n'y a pas de piège, c'est juste pour qu'on se familiarise. Alors, esthétique, Marina Chiche, beau ou sublime ?
Sublime.
Rythme ou tempo ?
Tempo.
Pourquoi ?
Parce que c'est la mobilité, c'est là où il y a de l'interprétation.
Ah oui, autrement le rythme, on doit le respecter, c'est ça ?
C'est ça.
Romantisme ou réalisme ?
Romantisme.
Harmonie ou mélodie ?
Ah, ça va me tuer.
Il y a plein de gens qui aimeraient comprendre la différence.
Alors, mélodie, c'est le chant, la ligne seule, donc c'est cantare, cantabile, voilà. C'est évidemment, le violon est fait pour ça. Mais évidemment, on rêve toujours d'être ce qu'on n'est pas, donc moi je fantasme que d'harmonie. Donc c'est les accords, c'est la polyphonie, c'est donc toute cette richesse aussi là d'interprétation.
Vous pouvez avoir une mélodie. Mais que le violon, enfin moi je suis un novice, mais que le violon a du mal à rendre quand même, par rapport à la mélodie, on est d'accord.
Exactement, et en fait, c'est toute la magie du répertoire pour violon seul. Moi, j'adore expliquer ça. Je fais des fois des concerts où je raconte ça parce que justement, Bach nous fait atteindre la polyphonie. Donc, c'est vraiment nous fait toucher au-delà du violon, un au-delà de la mélodie.
Et c'est peut-être parce qu'il y a polyphonie comme ça que ça fait écho à la polyphonie en nous, c'est-à-dire à la multiplicité du sujet humain.
Totalement. Et ça nous donne un ancrage aussi. Donc, c'est vraiment la richesse et la complexité des racines.
Alors, on continue. Kant ou Hegel ? Je précise la question pour les auditeurs. Pour Kant, le beau n'a pas de sens, il est juste là. Et pour Hegel, le beau porte des valeurs. Alors, Kant ou Hegel ?
J'adore Kant en général, mais sur ce coup-là, Hegel.
Beau bizarre ou éblouissant de clarté ?
Il faut les deux.
Ah oui ?
Oui, il fait les deux. Il faut les deux, et c'est là où, dans cette équation impossible de musicienne classique, il faut la perfection, parce que s'il n'y a pas la perfection, on est hors propos. Mais s'il n'y a que ça, il faut la bizarrerie, sinon c'est pas intéressant.
Oui, bien sûr. Liberté ou destin ?
Liberté.
Orelsan ou Booba ?
Orelsan, parce que ça peut pas être Booba.
Ah bon, on en parlera après. Enfin, le pauvre Booba, je sais pas ce qu'il se prend depuis le début de l'été, là. Et staccato ou allegretto ?
Les deux.
Bon, alors on va enchaîner directement. Vous avez parlé d'accueillir à l'imprévu. Je ne savais pas que vous alliez arriver avec votre violon. Je propose qu'on vous écoute jouer ce que vous voulez.
Ah non !
Ce que vous avez envie de jouer maintenant. Essayez peut-être de faire un hommage au violon à Édouard Baird, allons-y. Et à Thierry Henry.
Ah non ! Ok, ça me donne une piste.
Merci beaucoup, c'est magnifique. Mais là, j'ai bien compris, il y avait un staccato quand même.
Mais oui, voilà, c'est pour ça. Vous m'avez invité, alors j'ai pris du staccato et de la joie.
Ouais. Et alors, cette joie mélangée à la tristesse qu'on a évoquée, merci beaucoup, dans le sillage de Nietzsche. Nietzsche nous dit aussi que finalement, c'est la manière de rater, c'est de ne pas vouloir être triste, c'est être dans le déni. Et il y a quelque chose comme une acceptation, comme ça, un consentement qui va parallèlement, progressivement, nous redonner du pouvoir. Est-ce que vous le vivez techniquement ? Je m'explique. C'est quand même très dur, le violon.
Enfin, c'est très, très dur. Demandez à mes voisins.
Voilà. Et en même temps, on arrive à un moment à cette libération, à cette grâce, à cette facilité, quoi, on va dire. C'est un peu pareil, par analogie, que quand c'est dur d'accepter le désenchantement, la désillusion, et que finalement, par l'acceptation, on arrive à une forme de délivrance, quoi.
Alors moi, j'y arrive pas du tout. Dans la vie, en général, je suis une grande désenchantée et je passe mon temps à me dire qu'il faudrait réduire mes attentes envers le monde et je n'arrive pas à m'y résoudre. Donc je passe mon temps à être enthousiaste et extrêmement déçue. Et quelque part, je pense que c'est ma part de romantisme. C'est-à-dire de toujours penser qu'il y a un au-delà. Et j'ai besoin de projeter encore plus que le réel pour survivre.
Ouais, mais c'est dangereux.
Oui.
Parce que vous savez, par exemple, toute la littérature russe repose sur cette idée, Tolstoï, enfin pas tous, ouais, Dostoïevski, que finalement, si on met, même je vous recommande à tous les auditeurs pour l'été un sublime livre de Agueïev qui porte pour titre Roman avec cocaïne, qui raconte exactement ça. Ça a rien à voir avec la cocaïne. La cocaïne est un détail dans le livre, mais en fait, ce que racontent les Russes, c'est que si vous êtes trop romantique, ouais, si vous êtes trop idéaliste, si vous visez trop l'absolu, il y a un moment où vous allez être tellement déçu de ne pas l'atteindre qu'il y aura un retour de manivelle, soit dans une dépression, soit dans un burn-out, soit dans le fait de faire le mal. Parce que n'étant pas capable de l'absolu du bien, vous sombrerez dans l'absolu du mal. Ce qui a été le cas d'ailleurs de certains collabos français, qui étaient des écrivains en quête d'absolu et qui n'ont pas réussi à toucher l'absolu du bien et qui sont allés dans l'absolu du mal. Alors est-ce que, à votre âge, il ne serait pas temps de viser davantage une sagesse de la mesure, une sagesse grecque de la modération, qui est d'ailleurs celle à laquelle Nietzsche veut que nous arrivions quand il propose une sortie du romantisme pour arriver à cette sagesse, de l'équilibre suprême? Et ben figurez-vous que c'est ça pour lui l'allégresse, justement.
Alors, pourquoi croyez-vous que je fais de la musique? C'est justement parce que dans cet espace-là, pour moi, il y a une dimension thérapeutique. Parce que là, j'ai non seulement le droit, mais peut-être même le devoir de viser l'absolu. Alors c'est à la fois, bon, je ne sais pas, la poule et l'œuf, c'est peut-être parce que j'ai eu cette éducation musicale avec cette exigence et cette quête de l'absolu encryptée dans le programme dès le début, que je la transporte dans ma vision de la vie en général. Mais c'est en même temps le remède. Bien sûr. Parce que c'est par cette pratique-là, là je peux aller au bout, je peux même me faire souffrir à aller au bout de ce délire. Par contre, évidemment, je dois régulièrement me rappeler dans la vie que je ne peux pas appliquer ce prisme, mais je le confesse, c'est douloureux.
Surtout que vous avez eu des moments de burn-out, en gros, ça vous arrive?
Oui, vous savez tout. Oui, et alors, les vertus de l'échec, pour ne pas vous citer, c'est vraiment une devise. Ça aussi, c'est, vous voyez, c'est le contre-pied, c'est le contre-intuitif, évidemment, dit comme ça, mais pareil pour la musique classique, eh ben voilà, on invite l'improvisation. Et en fait, on va inviter l'échec parce que c'est seulement l'échec qui va permettre le succès, qui va permettre le mouvement.
Donc c'est... Et puis aussi qui va permettre tout simplement un moment de récupération, en fait,
ouais,
de relâchement. Parfois, on n'arrive pas à s'arrêter. Ce que nous dit le burn-out ou la dépression, ou même l'échec, c'est bien sûr, en fait, tu vas t'arrêter un peu parce que tu n'arrives pas à le faire tout seul. Tu n'arrives pas à avoir cette sagesse, donc la vie va t'imposer de s'arrêter. C'est une question que je voudrais poser à une violoniste comme vous qui aime beaucoup le sport de haut niveau. Et donc, il y a une analogie intéressante, oui, entre la musique dans son très haut niveau et le sport de très haut niveau. C'est comment on gère ce besoin, en fait, de récupération, ce besoin de s'arrêter. Est-ce qu'il faut être accompagné? Est-ce qu'on arrive à avoir cette sagesse tout seul?
Non, je pense qu'on prend des claques, on prend des moments de fracture, de rupture, où d'un coup on a soit une tendinite, voilà, le corps qui se révèle, donc le corps maître absolu, bien sûr. Bon, j'ai été assez épargnée, j'ai pas eu trop ces moments-là. Moi, c'est vrai que ça s'est manifesté dans des moments de grande fatigue, et puis l'atteinte du désir, de l'envie,
oui,
de ce libido musical. Donc j'ai compris sans être épargnée, quoi, j'ai payé le prix fort pour comprendre que j'avais besoin de ces moments de récupération, et que non seulement j'en avais besoin pour régénérer mon corps, ma santé mentale, mais que c'était nécessaire artistiquement. Et en fait, il y aurait presque un culte inverse maintenant. J'ai découvert ce livre qui est en anglais, qui s'appelle The Sweet Spot, qui est, je ne sais pas comment on traduit ça, mais qui est peut-être être dans la zone, cet endroit.
Oui,
c'est, voilà. Et le Sweet Spot, où l'idée, c'est en faire moins pour produire plus, quelque part. Et avec le violon, il y a vraiment quelque chose à un certain niveau d'intégration du geste technique et de la maîtrise du répertoire, où finalement, moins fréquenter les œuvres, moins travailler son violon, c'est ça qui va nous donner accès à notre singularité, ouais, à notre...
Être dans la zone, Federer en parle très bien aussi, ça ne s'atteint qu'à la condition de ne pas toujours chercher à l'atteindre, de ne pas toujours vouloir l'atteindre. Ouais. Et parfois aussi, pour retrouver le désir dont vous avez parlé, il faut cesser de vouloir un peu. Mais je ne voudrais pas qu'on termine l'émission sur le côté dark du burn-out ou de l'échec, mais plutôt sur une question plus générale. Et je pense que vous êtes bien placé pour nous éclairer. Selon vous, qu'est-ce que la musique peut apporter au monde?
J'ai combien d'heures là?
Il ne vous reste plus qu'une minute.
Voilà. Je pense que la musique... Alors, il y a une très belle phrase de Walter Benjamin dans Les Lettres à la littérature, et qui dit que la littérature n'est pas là pour apporter des remèdes, mais des nourritures. Et je pense que la musique nous donne ces nourritures spirituelles. D'où ma conviction profonde et cette envie qu'elle soit accessible à tous, sans la dégrader, au contraire, parce que c'est une invitation à une forme d'élévation. C'est une mise en symbole, mise en musique de la condition humaine, bien souvent. Et donc, elle nous amène, si ce n'est des remèdes, des éléments qui peuvent vraiment soigner l'âme.
Vous pensez que la musique était là avant nous ?
Sans doute.
Parce que c'est aussi la thèse, de Nietzsche, hein, qu'il y a une musique originelle du monde. Nietzsche qui nous aura donc accompagné toute la matinée, et que finalement, on en entend les échos, les vibrations.
Oui.
On n'a pas eu le temps d'aborder ça, mais le violon, c'est quand même de la vibration.
Oui, à haute dose. Et ça, dans le corps, mais bien plus que ça. Ça vient vraiment nous accorder l'âme.
Vous avez déjà été trop ému en concert, au sens où ça vous a empêché d'être vraiment bonne?
C'est toujours le risque. Oui. C'est toujours le risque. On doit aller près de la folie. Il y a des garde-fous, mais ça met... Oui, je pense que c'est une lutte avec une espèce de taureau, comme ça, c'est une corrida parfois.
Merci beaucoup Marina Chiche de nous avoir accompagnés ce matin sous le soleil de Platon. Je vais essayer de résumer pour nos auditeurs la philosophie de la vie qui a été la vôtre et qu'on a entendu ce matin dans vos mots, mais aussi dans votre jeu, puisque vous avez joué du violon. Alors évidemment, elle est nietzschéenne, on l'aura compris, une philosophie de l'allégresse. C'est une philosophie au cœur de laquelle on sent que la technicité, heureusement, a pour horizon une libération de la technicité, mais qui n'est rendue possible que par la technicité, comme si finalement il fallait beaucoup, beaucoup, beaucoup maîtriser pour enfin s'autoriser l'immaîtrise, c'est-à-dire ce que vous avez appelé dans le sillage des sportifs, hein, être dans la zone, trouver le flow, ce moment où c'est devenu facile et où on s'autorise à improviser. Vous êtes un peu comme Edouard Baird quand il parle en improvisant, un peu comme Saccomano quand il commente un match de foot, un peu comme nous tous quand nous essayons de vivre en nous arrachant à la répétition, au process et à la dictature des choses à faire, en essayant de toucher cette énergie vitale au cœur de laquelle il n'y a plus de séparation entre la tristesse et la joie. Marina Chiche, merci beaucoup. C'était très très intéressant et très agréable de vous écouter. Et je recommande à tout le monde votre émission sur France Musique tous les dimanches qui s'appelle Les femmes musiciennes
de légende.
Merci beaucoup Marina Chiche. Cette émission a été réalisée par François Audouin, avec à la technique Michel Bézikian, à la programmation musicale Valentine Chaudebois, aux illustrations sonores Romain Couturier. Elle a été préparée par Estelle Gap et Aurore Juvenel. Quant à moi, je vous retrouve tous les matins à 10h précises, sous le soleil exactement, dans la caverne de France Inter, sous le soleil de Platon.